Je vais aborder un sujet ce matin, c'est à la fois simple et un peu compliqué, je pense. Le rapport de cause à effet entre deux choses. Vous connaissez cette petite blague méchante que j'ai commencé de raconter quand j'étais tout petit, hein. Une expérience scientifique, on prend une puce, on lui enlève une patte, on lui dit saute, elle saute, on lui enlève deux pattes, on lui dit saute, elle saute, etc. On lui enlève quatre pattes, on lui dit saute, elle saute pas. Conclusion scientifique, lorsqu'on enlève quatre pattes à une puce, elle devient sourde. Donc des fois, il y a des choses qui se passent quand on fait quelque chose et on en tire une conclusion et les faits sont réels, mais la conclusion qu'on en tire est fausse. Hein? Voilà. Et je ne sais pas si pour vous, mais j'ai été interpellé ces derniers temps par une phrase, une expression que j'entends souvent, que j'utilise aussi, hein, et qui est liée avec le mérite. Alors on pense à quelqu'un par exemple qui a eu beaucoup de malheurs dans sa vie et puis il en arrive un de plus et on dit quand même il méritait ou elle méritait pas ça. Ou alors y a des gens qui travaillent beaucoup, etc. Et puis ils y arrivent et on dit ils l'ont bien mérité. Et c'est quelque chose qu'on dit comme ça, voilà, il l'a mérité, elles ne l'ont pas mérité. Et ça m'a interpellé parce qu'en fait je pense qu'il y a une grosse confusion avec cette idée-là. Et on est un petit peu dans l'erreur, il me semble. Alors, le point de départ, c'est que je pense que nous avons tous, et ça serait intéressant si on faisait le tour de savoir quelles choses nous pensons sont normales ou pas, mais nous avons tous des choses que nous pensons normales, c'est-à-dire elles nous sont dues ou acquises. Hein. Et j'aimerais, pour introduire ça, vous lire un petit bout de... C'est une pièce de théâtre écrite par Eric Emmanuel Schmitt qui s'appelle Le Visiteur. Et il a imaginé, dans tout son petit délire, une rencontre entre Dieu et Freud, au moment où il était dans le début. Donc Freud est dans son cabinet, et puis il y a un personnage qui rentre là, et puis qui dit qu'il est Dieu, et puis ils discutent tous les deux, quoi. Et donc il y a cette... discussion où Freud dit à Dieu ce qu'il lui dirait s'il était en face de Dieu, parce qu'il ne pense pas que c'est réellement Dieu qui est là, mais même si c'est lui. « Si je l'avais en face de moi, Dieu, voilà de quoi je l'accuserais. De fausses promesses. Le mal, c'est la promesse qu'on ne tient pas. Qu'est-ce que la mort? Sinon la promesse de la vie qui court là dans mon sang sous ma peau qui n'est pas tenue. Qu'est-ce que la douleur? Sinon l'intégrité du corps démenti, un corps fait pour courir et jouir, un corps tout en un, et le voilà vulnéré, amputé, défait, on l'a floué. Non, la douleur ne se vit pas dans la chair, car toute blessure est une blessure à l'âme. C'est la promesse qui n'est pas tenue, faute à Dieu. Et le mal moral que les hommes se font les uns aux autres, n'est-ce pas la promesse de la paix rompue ? Car la promesse qu'il y avait dans la chaleur d'une tête blottie entre les deux seins d'une mère, car la tendresse d'une voix douce qui parlait du plus profond de la gorge, quand l'univers se résumait à deux mains aimantes qui nous donnaient biberon, sommeil, caresse, où tout cela est-il passé? Pourquoi cette guerre? Promesse non tenue, refaute à Dieu. Elle serait belle la vie si ce n'était une traîtrise. Elle serait facile la vie. Si je n'avais pas cru qu'elle dût être longue, juste et heureuse. Et je trouve cette réflexion est intéressante, parce que peut-être nous ne partageons pas tous les prérequis de cette personne-là, mais nous avons tous certaines idées, hein. Surtout quand on est jeune et si on a alors, le privilège ou pas, hein, de naître en bonne santé et de grandir en bonne santé, on considère que c'est normal d'être en bonne santé. On a cette idée que oui, passé un certain âge, y a l'usure, etc. Mais naître en bonne santé, c'est normal. Donc quelqu'un qui est en mauvaise santé dès son jeune âge, c'est pas juste. Il ne l'a pas mérité. Et on a tous comme ça des idées. Hein. C'est normal d'avoir ça, c'est normal d'avoir ça. Et selon notre point de départ, on va vivre des choses difficiles en les supportant assez bien, parce qu'on ne pensait pas que ça nous était dû. Hein. Dans un pays où il n'y a pas de sécurité sociale, l'État ne prend pas soin de vous, ce n'est pas injuste, parce qu'on a toujours vécu comme ça, c'est à nous de nous débrouiller. Mais dans un pays comme celui d'où je viens, où on prend comme point de départ que l'État est là pour subvenir à tous mes besoins, s'il m'arrive quelque chose, c'est une catastrophe, parce que l'État ne m'a pas protégé. Hein. Et donc, on va voir des Français qui vont se révolter parce qu'il faut payer les masques pour les enfants pour aller à l'école, alors que ça ne viendrait pas à l'idée d'un Suisse de demander au gouvernement de payer les masques pour ses enfants pour aller à l'école. La différence entre les deux, c'est quoi ? Ben, c'est ce qu'on considère comme normal. Hein ? Et il y a des raisons derrière, le système n'est pas le même, etc. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler, c'est juste pour donner cet exemple qu'on a tous ces idées-là. Et bien sûr, on transporte cette façon de penser dans notre compréhension du monde spirituel et des choses de Dieu. Et donc, il y a des choses qu'on considère normales, et puis il y a des choses qu'on considère comme on les a méritées, et puis des choses qu'on n'a pas méritées. Et on doit bien comprendre que le mérite, ça marche dans les deux sens. Parce que si je pars dans l'idée que lorsque je fais certaines choses, je mérite quelque chose, alors ça veut dire que j'accepte aussi l'idée que lorsqu'il m'arrive quelque chose de négatif, je l'ai peut-être mérité. Hein ? Donc vous voyez, c'est dans les deux sens. Et ça, c'est très grave aussi, parce que ben, on connaît des gens qui sont sur qui le malheur, ou le enfin, malheur, une chose négative arrive, mais ce qui les fait le plus souffrir, c'est de se demander mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive, hein. Et chez les chrétiens, c'est peut-être encore au plus fort parce qu'il y a cette idée que ben, Dieu est derrière les choses. Donc voilà, les autres sont en bonne santé et moi je nais avec une maladie et en plus je me casse la jambe et en plus je perds mon travail et en plus ma femme m'a quitté. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, et donc notre compréhension du mérite et du lien qu'il y a entre ce que je fais et ce qui m'arrive est très importante parce qu'elle va déterminer notre capacité à recevoir ou à accepter la grâce de Dieu. Alors, j'aimerais encore essayer de dissocier deux choses qu'on mélange, c'est le mérite et le fait que Dieu ait mis dans la vie la capacité de se reproduire. Je vais expliquer ça un petit peu plus. Dieu a créé les semences, et les semences donnent naissance à des plantes, à des arbres, etc. Et puis nous aussi, en tant qu'être humain, on peut se reproduire. Tout ce qui est vivant se reproduit. Et donc, il y a un principe dans la vie qui fait que les choses peuvent se reproduire, se multiplier. Mais on mélange là aussi les conséquences de la croissance de quelque chose de vivant et le mérite. Et pour essayer de comprendre un peu ça, je voudrais vous raconter une petite parabole, mais qui n'est pas dans la Bible. C'est une petite parabole à moi. C'est la parabole des deux jardiniers. Et imaginez un jardinier qui a une vie morale à peu près irréprochable. Il est honnête, il est sérieux dans sa famille, il s'occupe bien de ses enfants. Comme c'est un Suisse, il paie bien ses impôts, etc. Il ne râle pas. Voilà. Et puis, ben, lui, il plante ses tomates, mais dans une terre qui est sèche, dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Et puis, il prie et il s'attend à ce que ça pousse. Et puis à côté, il y a un jardinier qui est complètement immoral, il frappe sa femme, il bat ses enfants, il ne paie pas ses impôts, il est malhonnête avec tout, etc. Mais il a compris comment poussent les tomates et il met ses tomates dans un super terreau avec tout ce qu'il faut autour, il y a l'humidité qu'il faut, la température qu'il faut. Et il va récolter de belles tomates. Et l'agriculteur très moral va ne pas avoir de tomates. Et on dit quoi devant ça ? Ah, il a mérité ? Il n'a pas mérité ? Alors on va déplacer en disant, oui, mais lui, même s'il était immoral, il a travaillé. Ce n'est pas le fait qu'il a travaillé, parce que peut-être que le mauvais agriculteur qui ne sait pas de quoi a besoin la tomate, il va travailler plus et il n'aura pas de récolte. Donc, le mérite, c'est l'idée que ce que j'ai fait fabrique quelque chose qui me vaut quelque chose. Or, la Bible est très claire. Nous ne méritons rien. Dans l'épître, Paul, pas où c'est qu'il dit ce verset. Vous voyez, je ne mérite rien du tout, je ne suis même pas capable de relire mes notes. Voilà, 1 Corinthiens 4, 7. Qu'est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Et si on réfléchit un peu à ça, oui, lui, il a des meilleurs résultats en maths. Oui, alors bien sûr, il y a une partie de son travail, de sa volonté, mais il y a des gens qui naissent doués en maths et d'autres non. Il y a des gens qui naissent en étant travailleurs et d'autres non. Il y a des gens qui naissent en y voyant mieux que d'autres. Donc la question, ce n'est pas est-ce que j'ai mérité quelque chose ou pas, c'est qu'est-ce que je fais avec la vie qui m'est confiée. Celui qui a des capacités en maths peut décider de ne pas les développer, il n'en fait rien, il ne s'en occupe pas et il n'en fera rien. Et ben, il n'aura pas le résultat. Mais ce n'est pas une question de mérite. Si on regarde comment notre histoire a commencé lorsque Adam et Ève ont été mis dans le jardin, quelle était leur activité, ce qui leur était demandé? Il ne leur était pas demandé de mériter leur nourriture, il leur était demandé de prendre soin du jardin. Le jardin est vivant, il produit tout ce qu'il faut pour vivre, et vous devez en prendre soin. Et puis il va produire des fruits et ce qu'il faut, et vous allez pouvoir vivre de ça. Et je crois que c'est une réflexion qui est... Ben voilà, j'aimerais semer cette réflexion chez vous pour que vous y réfléchissiez, qui est importante parce qu'on est toujours égaré avec ce « je l'ai mérité, je ne l'ai pas mérité hein. ». J'ai travaillé dur et je l'ai mérité, je n'ai pas travaillé dur et je l'ai mérité. Et on doit comprendre à quel point cette façon de penser est fausse. Oui, il y a des conséquences à nos actes, mais pas à cause du mérite. À cause du principe que Paul reprend aussi dans le livre des Actes, Galates 6, verset 7, hein, « Ne vous y trompez pas, ce qu'un homme sème, il le récoltera. » Mais ça n'a rien à voir avec le mérite. Hein. Si je sème du blé, il pousse du blé, à condition qu'il ait l'eau, ce qu'il faut, etc. Hein. Mais quel est mon mérite? C'est pas moi qui fais... Si j'avais semé des cailloux, il ne poussait rien. Et si j'avais semé des petits pois, il n'aurait pas poussé du blé. Hein. Donc, ça, c'est un principe qui existe. Ce qu'on sème, on le récolte, pour le bon et pour le mauvais. Et puis, si je prends soin de ce que je sème dans le sens positif, ben, je vais avoir une belle récolte. Et des fois, non, en plus. Et puis, dans le sens négatif aussi. Et nous avons toujours ces deux choses-là qui sont mélangées. Quand je fais quelque chose et que je travaille dur pour que ça arrive, et puis ça arrive, j'ai ce sentiment que je l'ai bien mérité. Hein. Et puis, des fois, ben, on travaille dur pour quelque chose et ça ne se passe pas. Et là, on ne comprend plus. Mais pourtant, j'aurais dû avoir ce résultat. Hein. Et puis, quand c'est des choses qu'on ne choisit pas, comme la maladie, la trahison, les difficultés... on est toujours avec, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est un jugement, c'est ci, c'est ça, c'est... Non. Le jugement, il est tombé sur Christ. Par contre, il y a les conséquences de nos actes. Et, inexplicable, en tout cas pour moi, la souveraineté de Dieu qui donne à l'un des talents, à l'autre plus, à l'autre moins, qui fait que bah, cette personne-là, elle naît avec la capacité de courir 200 km. Il faut qu'elle la développe, mais elle l'a. Et puis l'autre personne, elle naît, ben elle ne peut même pas marcher parce qu'elle a les pieds qui ne fonctionnent pas. Est-ce qu'il y a un qui a mérité, pas mérité? Non. Hein. Mais nous avons, nous, une responsabilité qui est de développer ce qui est vivant et qui nous a été confié. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre à développer de façon parallèle. Alors moi, je ne suis pas né avec des facilités en maths. Mais j'aimais un peu plus la géométrie quand même que le reste. Et je me rappelle toujours de la définition de deux droites parallèles, hein, deux droites qui ne se rencontrent jamais. Et je me rappelle mon prof de maths qui nous expliquait, et même si on faisait le tour de la planète, ça finirait par faire un cercle, et il y aurait l'autre cercle à côté, mais ils ne se rencontreraient jamais, elles ne se rencontreraient jamais, parce qu'elles sont parallèles. Et dans nos vies... Il y a des principes spirituels qui sont et qui doivent rester parallèles. Et nous aimons les mélanger. Hein. Nous aimons que les choses soient poreuses. Là, maintenant, ça va faire un mois que je viens régulièrement au culte, que je lis ma Bible tous les matins, que je prie, que je donne ma dîme, que j'aide les voisins. Donc, ça devrait aller bien dans ma vie. Je devrais être en bonne santé, mon couple devrait être béni, mes enfants devraient aller bien. Et des fois, ça se passe. Et on fait comme l'expérience avec la puce, quand on arrache quatre pattes à une puce, elle devient sourde. Parce qu'au moment où j'ai fait ça, il s'est passé ça. Mais on doit se rappeler, pour le bon et pour le moins bon, que ces deux domaines ne sont pas liés entre eux. Christ et nous sommes nés pécheurs. Nous, on ne l'a même pas choisi, hein, c'est comme ça. Adam et Ève ont choisi, mais nous, on ne l'a pas choisi. On est nés pécheurs, c'est notre état. Et on est dans une condition qui est la nôtre. On ne l'a pas choisi, on ne l'a pas mérité. Il y a pas de... Je suis toujours irrité quand j'entends des chrétiens dire « Mais c'est normal qu'on soit béni parce qu'on est né en Suisse, on est un pays chrétien. » Tu as fait quoi pour mériter d'être né ici ? Et si tu étais né au fin fond de l'Afghanistan, tu serais musulman et pauvre et il n'y a aucun mérite à être né dans un endroit. Hein. Je suis né quelque part, comme dit un certain chanteur. Hein. Et puis voilà, on est né là. Par contre, j'ai ma responsabilité, là où je suis né, avec ma situation, de faire ce que j'ai à faire avec ma vie. Et je dois apprendre que je ne mérite rien. Éventuellement, on pourrait dire la seule chose qu'on mérite en tant qu'être humain, c'est d'être séparé de Dieu, puisqu'il est saint, on ne l'est pas, il est parfait, on ne l'est pas. Donc, si Dieu me donnait ce que je mérite, éventuellement, ça serait un aller simple pour l'enfer, point à la ligne, parce que ça, je l'ai mérité. Et encore, on trouverait que ce n'est pas juste, parce que ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est Adam et Ève. Hein, et puis, mais bon, on sait qu'on fait à peu près, on aurait tous fait le même choix, sûrement. Voilà. Donc, on ne mérite pas, mais on reçoit des choses. Et en même temps, on a une responsabilité qui est de prendre soin du jardin que Dieu nous a donné. Alors, on n'a pas reçu, comme Adam et Ève, un jardin parfait. Eux, ils avaient un jardin parfait, hein, mais il y avait quand même un défi. Cet arbre-là, on n'en touche pas, et puis, etc., etc. Et on doit apprendre à développer ces deux choses parallèlement. D'un côté, Dieu m'aime sans condition, parce qu'il est amour, parce qu'il a décidé de m'aimer, et il peut le faire parce que Christ est mort pour moi, hein, et pour tous les humains. En tout cas, pour moi, je ne crois pas qu'il est mort que pour quelques-uns. Voilà. Je m'engage sur ce terrain-là, mais tant pis. mais je sais que c'est compliqué. En tout cas, Dieu nous aime à cause de ce que peut nous aimer grâce à ce que Christ a fait, mettons les choses dans le bon sens. Hein. Et il nous aime, c'est une chose qui est unilatérale et c'est un fait. Pouf. Il n'y a rien qui peut influencer cette chose-là. Si je vis dans le péché toute ma vie et je vais finir en enfer, ben c'est mon choix, j'ai choisi de vivre sans Dieu, Dieu va respecter mon choix, hein. Mais Dieu ne m'aime pas plus, pas moins, il m'aime, parce qu'il m'aime, c'est comme ça. C'est une droite qui ne se coupe pas avec l'autre. Et puis, j'ai ma vie et la responsabilité du jardin qui m'a été confié. Et c'est important de ne pas choisir entre l'un ou l'autre. Parce que selon les tempéraments, hein, ben on va être sur le côté, ben de toute façon c'est Dieu qui fait tout, et puis tout est par grâce, et puis c'est gratuit, donc j'ai rien à faire, Dieu m'aime, et puis c'est super. Mais l'autre droite qui est là à côté, c'est qu'on récolte ce qu'on sème. Et que les choses vivantes que Dieu nous a confiées, si je garde mes graines dans ma poche, ben, y a rien qui va pousser. Si je ne leur donne pas les conditions qu'il faut, en humidité, en température, etc., il n'y a rien qui va se passer. Hein. Le monsieur qui, ou la dame, je ne sais pas, tu n'as pas dit, qui court 180 km, j'arrondis, hein, plus simple que ça. Je peux imaginer que c'est quelqu'un qui avait certaines dispositions physiques. Hein. C'est sûrement pas quelqu'un qui est petit et gros de naissance. Encore que. Mais s'il n'avait jamais travaillé cette chose-là, ben, il ne ferait pas ce qu'il fait. Et pourtant, ce n'est pas un mérite ce qu'il a, et ce qu'il a développé ne lui apporte aucun mérite supplémentaire. Mais il ne pourrait pas faire ce qu'il fait s'il n'y avait pas ces deux choses-là qui sont côte à côte. Sans mérite, il a reçu certaines choses, et puis il a pris soin de ce qui lui avait été confié, pour le travailler et le développer. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que je bascule toujours d'un côté ou de l'autre, plutôt de l'un que de l'autre, je vous laisse deviner lequel. Mais on a besoin de comprendre que c'est comme ça. Et dans la Bible, les vérités ne sont jamais un mélange de deux choses. C'est toujours des choses qui ont l'air paradoxales et qui sont dressées côte à côte de façon parallèle et infinie. On cite souvent le classique « L'homme est libre et Dieu est souverain ». Comment c'est possible? Ben, la Bible dit que l'homme est libre et que Dieu est souverain. Débrouillez-vous avec ça. Jésus, 100% Dieu, 100% homme. Et puis, voilà, et toutes ces choses-là sont de la même façon. Hein. On a pris comme texte dans notre méditation jeudi matin ce verset que j'aime énormément, Ésaïe 26, 12. « Seigneur, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » C'est magnifique. C'est un oxymore. C'est pas possible. Tout ce que nous faisons, ben, si c'est moi qui le fais, c'est moi qui le fais. Non. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Comment c'est possible, ces deux choses-là en même temps? Ou c'est moi qui l'ai fait, ou c'est Dieu qui l'a fait. Hein? Non, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et on retrouve ça très très souvent. Hein? Si on prend ce verset qu'on utilise aussi tout le temps pour expliquer aux non-croyants le salut gratuit, hein, mais qui est valable pour plus que ça, Éphésiens 2, 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, aucun mérite. Hein. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Hein. Oui, il y a des œuvres à faire, et oui, ces œuvres ne nous apportent aucun mérite. Et on retrouve ça dans les paraboles de Jésus. La première à laquelle j'ai pensé avec ce sujet, c'était la parabole dans Matthieu 20, des ouvriers des différentes heures. Vous connaissez cette histoire, je ne vais pas vous relire le texte, mais si vous voulez regarder, c'est dans Matthieu 20, à partir du verset 1. Hein? Donc c'est à l'époque de Jésus, comme encore aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, il y avait des gens qui étaient, leur seule richesse c'était leurs bras, et puis ils n'étaient même pas employés à la semaine, ouais, le matin ils allaient sur la place et on les employait pour la journée. Donc c'est ce qu'on appelait un journalier. Et voilà, il y a un propriétaire de vigne qui vient le matin sur la place, il voit quelques personnes là à 7h du matin, puis il en embauche pour aller travailler dans sa vigne, et puis il revient à 10h, il y en a encore d'autres sur la place, il les embauche à midi, à 16h, et puis à 17h, il en embauche encore quelques-uns, et puis à 19h, il les convoque pour la paye. Et à chaque fois qu'il les embauche, il leur donne les conditions. Tu veux travailler chez moi pour une pièce d'argent, je ne sais plus, même temps une pièce d'argent, voilà, paf. Hein, on va dire, je te donne 100 francs pour la journée. Et puis, il dit la même chose à tous. Et quand la fin de la journée arrive, ceux qui ont commencé depuis 7h du matin reçoivent leurs 100 francs, c'est ce qu'on leur avait dit. Et puis, celui qui est arrivé à 18h ou 17h30, il touche aussi 100 francs. Et puis, ceux qui étaient là depuis le matin, ils se disent, c'est pas juste. Ah nous, on s'est tapé toute la journée, la chaleur. Hein. Je sais que cette parabole, particulièrement en Suisse, elle est choquante. Partout, mais en Suisse particulièrement. Hein. Parce que les gens qui travaillent presque pas touchent autant que ceux qui ont travaillé beaucoup, s'il y a un truc qui n'est pas juste, c'est bien ça. Ils ne l'ont pas mérité. Et Jésus raconte cette histoire-là justement pour qu'on comprenne. Quand je vous fais un cadeau, je vous fais un cadeau. Vous, vous avez à faire ce que vous avez à faire, et moi, je fais le cadeau. Et les deux sont parallèles. Vous vous êtes engagé à travailler, faites votre travail. Toi, tu t'es engagé à travailler 8 heures, tu le savais, toi, à travailler 6, toi, à travailler 5, toi, à travailler 3, toi, à travailler 2. Ça, c'est votre engagement, vous devez le tenir. Et moi, j'ai décidé de donner à tous quelque chose. Hein? Et en plus, c'est nivelé par le haut. Hein? Donc, on pourrait dire que c'est presque socialiste comme pensée. Quoi. En fait, c'est celui qui a eu raison, c'est celui qui s'est levé tard et qui a traîné au lit, et puis encore qui est passé au bistrot, peut-être voir la voisine pendant que son mari, lui, s'était levé à 7h pour aller travailler. Et puis, il arrive là à 17h et il va toucher la même chose que les autres. C'est pas juste. Mais c'est pas juste pourquoi? Parce qu'on a cette idée qu'on a ce qu'on mérite. Mais on n'a pas ce qu'on mérite. Heureusement, et tant pis des fois peut-être, mais on n'a pas ce qu'on mérite. Il y a des gens méchants, désagréables, pourris, c'est des ordures, et ils deviennent riches, ils sont en bonne santé, ils meurent vieux sans problème. Et il y a des gens extraordinaires qui aiment les autres, qui sont généreux, hein, et puis ils sont malades et ils n'ont pas d'argent, et puis ils meurent jeunes dans la souffrance et la difficulté. C'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Ça nous choque, hein. Mais Dieu n'est pas dans ce business-là. ça me plaît pas, moi ça me choque, hein, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette autre parabole qu'on aime moins, où Jésus, en plus, j'ai pas tout compris, j'ai pas compris grand-chose plutôt, mais le lien est difficile à faire. Les disciples posent une question sur le pardon. Jésus dit, tu dois pardonner jusqu'à 7 fois, 77 fois, 7 fois, plein de fois, dans une journée. Donc là, les disciples répondent en disant, c'est trop compliqué, augmente-nous la foi. Et la réponse de Jésus à augmente-nous la foi, c'est cette parabole qu'on appelle du serviteur inutile. Hein. Et Jésus leur dit ça, et ça là je vous la lis. « Qui de vous, il y a un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs ?» Et là, c'est ma traduction à la serviteur, mais c'est esclave. Hein. « Approche-toi vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé à bu. Après cela, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, car nous avons fait ce que nous devions faire. » Alors l'autre de parabole, on l'aime bien, celle-là on l'aime moins, enfin en tout cas moi je l'aime moins, c'est quoi cette histoire quoi ? C'est que le gars il bosse, il fait son boulot, tout ça et tout, et à la fin on lui dit, tu es un serviteur inutile. Non. Qu'est-ce que Jésus est en train d'expliquer ? Il faut se rappeler que celui qui raconte cette parabole, c'est un maître qui va instaurer un royaume dans lequel le maître lave les pieds des serviteurs. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Hein. Ce que Jésus leur explique, c'est que quand vous faites ce que vous avez à faire, hein, ça ne vous rapporte aucun mérite. Vous devez faire ce que vous avez à faire, point. Et vous devez le faire. Et quand vous l'aurez fait, ne vous attendez pas à ce qu'on vous dise merci. Vous deviez le faire. Mais par contre, sans aucun mérite, gracieusement, parce que je vous aime, je vous donne tout. Et donc, on a d'un côté un Dieu qui nous dit « Je t'aime, je t'ai aimé, je t'aimerai. » Oui, il a dit avant Francis Cabrel. « Et je t'aimerai toujours, hein, et c'est immuable, et quoi que tu fasses, il n'y a rien qui pourra y changer. » Il n'y a pas de question de mérite. Et de l'autre côté, parallèlement, il y a un Dieu qui dit « Il y a des choses à faire, il y a des œuvres que j'ai préparées pour toi. » Il y a un jardin à cultiver, il y a de la vie à prendre soin, et tu dois le faire, hein. Tu n'es pas obligé. Si tu le fais, ben, ça produira ce que je veux. Si tu ne le fais pas, ben, ça ne sera pas là. Mais si tu le fais, ne pense pas que ça te gagne quelque chose de plus. Parce que tu ne peux pas avoir plus que ce que je te donne tout, gratuitement. Mais pourtant, tu dois faire ce que tu as à faire, et à la fin, ne pas être avec le sentiment « Ah ben moi, vu tout ce que j'ai fait, je mérite un bonus. » Mais tu ne peux pas avoir de bonus quand tu as le maximum. Hein. Et on a du mal, je ne sais pas pour vous, mais ces deux notions-là... Alors je sais qu'il faut deux pieds pour marcher, mais c'est compliqué. Parce que on est d'un côté ou de l'autre. Hein. C'est vrai que quand on fait tout ce qu'il faut, comme il faut, et que, une expression que je déteste, on se donne de la peine pour le faire bien. Hein. J'ai horreur de ça quand on me dit « Oh, vous savez, on s'est donné de la peine. » Ah, non, on ne se donne pas de la peine, on fait ce qu'on a à faire et on le fait de tout notre cœur. Et si c'est fatigant, si c'est difficile, si ça fait mal, c'est pas grave parce qu'on fait ce qu'on doit faire. Et en plus, on ne le fait pas pour mériter quelque chose puisqu'on reçoit tout gratuitement. Et on doit apprendre à danser sur nos deux pieds avec ces choses-là. Et ce n'est pas naturel au cœur de l'homme. Ce n'est pas naturel. Quand j'ai fait ce que je devais faire, c'est facile pour moi de m'approcher de Dieu par grâce. Genre, je l'ai quand même un peu mérité. Tu vois, Seigneur, tu m'as racheté, mais aujourd'hui, je trouve que, quand même, je le valais bien. Puis il y a les jours où on rate tout, on fout tout, on ne fait pas ce qu'il faut, on ne fait rien. Puis là, ces jours-là, on prie comme ça, « Seigneur, oui, merci pour ta grâce, je sais... » Puis Dieu dit, mais tu ne mérites pas plus là qu'autrefois, tu ne mérites pas moins. Ça n'a rien à voir. Hein. Ces deux compartiments étanches ne se mélangent jamais. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand on vit là-dedans, même sans le comprendre, on peut dire, Seigneur, tu nous donnes la paix, parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Seigneur, on te demande que tu nous aides à comprendre, mais pas juste avec notre tête, avec notre intelligence spirituelle, celle qui nous vient de toi. C'est encore un cadeau, on ne l'a pas mérité. Mais que nous puissions la nourrir, la développer, parce que c'est ce que tu attends de nous, pour en retirer tout ce que tu veux qu'on en retire, Seigneur. Alors, conduis-nous là-dedans, et puis que nous puissions nous poser les bonnes questions, et puis trouver les réponses que toi, tu as prévues pour cela. Et nous voulons te remercier, parce que même si ça nous dépasse, tu es incroyable, tu es merveilleux, tu es fantastique, et c'est la plus belle chose qui puisse exister, de trouver ce que tu as préparé d'avance pour nous et puis de consentir à ta grâce, recevoir tout ce que tu veux nous donner sans aucun mérite. Garde-nous dans cette journée et puis dans les moments qui viennent.